A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bah, les biopics sont chiants. Après, t'as des films musicaux qui sont super, mais c'est vrai que les biopics sont chiants.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine a ressorti ses plus belles baskets vintage, les sweatshirts d'antan et ses disques préférés de la grande famille Death Row pour se mettre dans l'ambiance et évoquer le biopic musical de cette rentrée, NWA Straight Outta Compton, le film qui retrace les aventures du groupe de hip-hop le plus dangereux de l'histoire de la musique, en tout cas celui qu'on nous a vendu comme tel à l'époque. Pour en parler, un duo au flow acéré, Yannick Dahan d'abord, salut Yannick.
Salut.
Et Lélo Jimmy Battista, salut Jimmy.
Salut Thomas.
Et le public autour de nous ici autant. Allez, Nos Ciné épisode 21, c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
L'an de grâce 1986, banlieue de Los Angeles, la redoutable Compton, où évoluent 5 garçons pleins d'avenir, Easy, DJ Yella, Dr. Dre, MC Ren et Ice Cube, dont la rencontre et la prise en main par le manager Jerry Heller va donner naissance à la référence ultime du gangsta rap de la côte ouest, NWA, Niggas with Attitude. Et c'est cette histoire rapide, violente et décisive pour la musique mondiale que nous raconte le film de F. Gary Gray, Straight Outta Compton. Ça n'a pas vieilli, en tout cas pas pour moi. Nos deux amis autour de la table ont vu NWA Straight Outta Compton, mais qu'en ont-ils pensé, Jimmy ?
Moi déjà au départ, tu te dis forcément que ça part mal parce que c'est un biopic, et un biopic, oui. C'est pas génial. En plus, c'est un biopic musique, c'est encore moins bien.
On en parlera après. c'est thématique.
Et en plus, c'est un biopic musique rap où c'est encore vraiment le pire, la catastrophe, puisqu'il y a vraiment, on en parlera plus tard tout à l'heure, je pense, mais il y a vraiment que des catastrophes dans ce créneau-là. En plus de tout ça, c'est en plus un biopic musique rap, mais en plus d'une période qu'on a, enfin je sais pas Yannick aussi, je pense qu'on a connu en temps réel en fait à l'époque. Donc c'est, il faut pas se planter quoi. Et en fait, en l'occurrence, c'était vraiment une bonne, assez grosse surprise, dans le sens où ça marche. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne vraiment bien déjà. Bon, le fait que le réalisateur c'est plutôt un mec qui vient du film d'action et
braquage à l'italienne, tout
voilà,
ça, c'est lui
qui a fait ça. Que tu sois fait aussi, c'est un vigilante un peu de new school et qu'il ait été dans ce milieu-là aussi puisqu'il a fait le clip de It Was a Good Day. Ice Cube, qui est un des cinq clips qu'on montrerait à un extraterrestre dans ce créneau-là. Donc le mélange de tout ça fait qu'en fait, ça fonctionne hyper bien. Moi, je t'ai dit, ça fait 2h30, je crois, le film. Et ça passe en. J'ai l'impression que ça a duré une demi-heure. Quoi. C'était vraiment. Et effectivement, par rapport à mon ressenti de l'époque, je ne me suis pas senti vraiment trahi, même s'il manque plein de choses. On en sait en parler. Mais dans l'absolu, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper réussi. Quoi.
Yannick.
Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet là, direct parce que le ressenti, oui, bon, sympa, petit film de pote. Pour moi, c'est schizophrène totalement. Donc, on pourra parler d'F. Gary Gray aussi, qui est avant d'être un réalisateur de films d'action. Une charpillère hollywoodienne.
Ça c'est vrai.
Puis me permettre, hein, c'est une sorte de Brett Ratner de la culture black aux États-Unis. Ça n'a jamais été un réalisateur qui mettait un caillou dans une chaussure. Alors il a fait un très bon film qui est devenu culte pour toute une génération et pour moi y compris, et qui a encore laissé des traces aujourd'hui, qui est Friday, qui est vraiment une comédie super fun. Et ça on peut pas lui enlever. Et c'est un très honnête artisan, technicien. Après il fait un film qui est une commande, quand bien même il aurait réalisé des clips pour Ice Cube, Dr. Dre, tout ça, il avait fait aussi Natural Born Killers.
C'est eux qui sont venus le chercher.
Voilà, qui sont venus le chercher, bien évidemment. C'est un film complètement schizo. C'est-à-dire que, moi, ce qui me fait marrer, c'est que tu as le biopic sur NWA, et on sait ce que c'est NWA, on sait ce que ça signifie en termes sociologiques, on sait ce que ça signifie en termes musicaux, on sait tout ça. Et à côté, tu as un pur produit de la bourgeoisie hollywoodienne, fait par des types qui ont été peut-être le groupe le plus dangereux du monde, mais qui aujourd'hui sont assis sur des montagnes de dollars, surtout et de qui essayent, comme j'ai envie de dire Al Pacino dans Le Parrain 3, à se donner une légitimité au niveau de la success story. Donc ce qui est quand même assez, si je regarde le film du point de vue d'NWA, tu pouvais pas faire plus bisounours que ça, quoi. C'est pas possible, c'est une hagiographie qui compile non seulement...
Ils se sont fait latter d'ailleurs par rapport là-dessus.
Mais bien sûr.
Par plusieurs acteurs après, de l'époque.
Non, c'est quand même génial de voir Ice Cube en gros dur au grand cœur et Dr. Dre en Mère Teresa de la musique. C'est vraiment... tu te pisses de rire quand tu connais un petit peu l'histoire. Et j'ai même envie de dire, même si ça fonctionne en termes de fabrication, parce que je suis d'accord avec toi sur un aspect...
Après, justement, effectivement,
sur un aspect très purement de petit film dramaturgique, ultra classique, avec les qualités et les travers du biopic musical tel qu'on l'a vu des milliards de fois, ça fonctionne, c'est sympa, c'est un feel-good movie, t'es galvanisé par des personnages qui sont construits de manière extrêmement attachante. Alors évidemment, pour ceux qui aiment cette période NWA, en plus, il y a un effort, entre guillemets, d'authenticité du monde. Moi, je suis totalement bluffé par l'acteur qui joue Easy, qui est non seulement lui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais en plus est un vrai putain d'acteur. Donc il y a une direction d'acteur qui est incroyable, il y a une énergie dans la façon dont F. Gary Gray filme l'intimité, la création musicale, voire même les conflits. En même temps, derrière, tu te dis le script, mais j'ai envie de mourir, parce que entre les flirts avec des gonzesses dans un ridicule totalement assumé, jusqu'à l'éternelle scène qu'on voit de Clo-Clo aux Doors, où genre t'as l'impression que le mec il est tout seul dans un coin et puis il est en train de trouver genre son, tu sais, sa mélodie géniale qui va faire le tour du monde en 3 secondes et demie, tu sais, tu te dis t'étais pas obligé de nous la faire celle-là, il l'a fait quand même. Donc en fait, à cette tonne-là du film de pote musical, il n'invente rien, il n'invente pas la roue, ça c'est clair, il enchaîne les clichetons, mais ça marche, c'est sympathique. Quand tu regardes au niveau d'NWA, avec tout ce qu'il y avait à dire, ça passe complètement à côté de son sujet. Et ce qui est aussi schizophrène, outre le fait que tu as deux films en un, l'autre aspect totalement schizophrène, c'est alors, va savoir si c'est volontaire, cynique, sarcastique, je n'aurais pas la prétention de le dire, mais d'avoir d'un côté deux producteurs, donc concernés, qui construisent un film à leur gloire en essayant de véhiculer des valeurs, mais tu sais, toute l'hypocrisie que tu as sur les disques de rap, c'est merci mon Dieu, j'aime ma famille, j'aime mon gamin, je fais la bénédicité, et derrière, je te sors le AK-47 pour buter le moins de connard qui me fait chier. Bon, t'as cette hypocrisie-là dans le discours, mais qui est complètement contrebalancée par les choix dramaturgiques du récit. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de choses à raconter dans ce film, en particulier la création de Death Row et les problèmes qu'il pouvait y avoir autour.
Après, c'est presque un autre film.
C'est presque un autre film. Et tout ça est évacué sur l'autel d'une volonté de ne réduire les problématiques de ce groupe qu'à un enjeu de thunes et de contrats. Ce qui... Et marrant, parce que d'un côté, tu écoutes tous les disques de ces mecs-là, et franchement, ça vole pas très haut, et ça va pas très loin, et c'est un concours de beats, genre, regarde, j'ai une grosse maison, j'ai autant de thunes que le Bangladesh, et l'autre en face, et ouais, non, t'as une petite beat, blablabla. Tout ça n'est pas très intéressant, c'est un entre-soi. Et alors, tu sens Dr. Dre et Ice Cube derrière dire, non, mais attends, alors, il faut parler d'Easy, parce que c'est notre poteau, et puis on l'a perdu. Et puis, attends, il faut taper sur le connard là qui nous a entubé sur le contrat, il faut faire ci. Mais en même temps, attention, hein, on est tous super parfaits, on est drivé par une passion, un truc. Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu retiens du film? Tu retiens une bande de connards qui se disputent pour 3 francs 6 sous et dont l'épicentre de leur existence n'est que la thune et l'image fantasmatique qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc il y a une schizophrénie totale et dans la narration comme dans le projet filmique lui-même. C'est ça qui le rend quelque part fascinant.
D'ailleurs, c'est un peu consent. Enfin, tu vois, j'ai pu faire un peu la promo derrière et voir des gens comme Ice Cube, etc. Ouais. Et effectivement, ils ont un discours qui est un peu atroce, quoi. C'est vraiment ce que raconte Yannick. C'est vraiment, tout est calculé. Ouais. Après, voilà, moi, je l'ai pris comme ça, comme un film que tu regardes l'été, qui fonctionne. Voilà. Moi, on parlera après, mais j'aime tellement pas les biopics que je m'attendais tellement à un niveau de...
Je suis d'accord avec toi, mais je précise juste un truc, c'est-à-dire que autant je le trouve très sympathique et assez captivant de potes, je peux même pas dire film de potes musical, c'est-à-dire que ça ne parlerait pas d'NWA, mais ce serait le hip-hop en toile de fond. J'ai envie de dire qu'à aucun moment il ne met réellement en valeur la puissance des morceaux, hormis, et c'est marrant là aussi, c'est schizophrénique, je finis là-dessus, le seul morceau qui est mis en valeur de façon géniale ouais, dans la mise en scène et dans le clip, ouais. C'est quand Ice Cube bash NWA. Mm. C'est quand même, tu te dis, il y a un truc derrière.
En plus, c'est marrant parce que c'est exactement ça. C'est tous les gens qui connaissent un peu le truc. C'est la scène qu'ils ont retenue parce que c'est la plus réussie.
C'est la plus
c'est vraiment la, parce qu'elle met vraiment en valeur le morceau.
Et c'est la seule, c'est quand même marrant sur un film sur NWA.
Ouais, voilà. C'est plutôt révélateur.
Bah, d'ailleurs, moi je trouve que Ice Cube s'en sort vachement mieux que tout le reste sur le film. Moi je trouve que c'est plus son personnage.
Ouais, mais parce que Dr. Dre, il est blanc comme neige pendant tout le film.
C'est
quoi.
Ça, c'est que, voilà, tout ce qui a intérêt, enfin, à peu près intéressant, The Dr. Dre n'est pas dans le film.
Non,
exactement. NWA Straight Outta Compton, le film, il est à voir en ce moment au cinéma, puis les albums de NWA, on les trouve facilement en CD, en streaming, et puis même en vinyle, c'est fou ça. J'avoue, c'est totalement gratuit, j'aime juste énormément cette version métal de Mary Poppins, puis j'espère que si le projet de reboot chez Disney va jusqu'au bout, elle sera dans le film. La musique et le cinéma font-ils si bon ménage que ça? Eh ben, c'est pas sûr. D'une part, les films où les gens chantent, quelques rares exceptions près, c'est absolument insupportable, et d'autre part, les biopics de musiciens tournent assez souvent au long et pénible concours de sosie. Oh, tiens, là c'est Elvis, tiens là c'est Quincy Jones, tiens là c'est France Gall, parce qu'en France aussi on en fait, malheureusement. Finalement, quitte à verser dans la parodie, autant y aller à fond.
My name's Dewey Cox.
Ah, Dewey Cox, le seul chanteur dont la vie est supportable à l'écran vu qu'elle est totalement fausse. Les biopics musicaux, est-ce que c'est voué à l'échec dès l'origine? Yannick.
Ouh là là, c'est une question compliquée.
C'est une question vaste,
je sais,
mais
on
est
pas peur. Voué à l'échec, non, ça dépend tout simplement, à mon avis, du point de vue que tu optes. Il y a énormément de biopics qui sont chiants, et je ne suis pas un grand spécialiste parce que j'en regarde pas des masses, parce que tu as l'impression que la seule préoccupation, de certains en tout cas, c'est d'éviter la géographie, tout en mettant en valeur les différentes facettes de la vie d'un personnage, tout en mettant en valeur effectivement les morceaux musicaux qui peuvent être populaires et tout ça. C'est un exercice d'équilibriste très compliqué. Là où tu as envie de dire, pour moi, quelque part, la meilleure démarche était la démarche d'un Florent Emilio Siri, dont j'ai adoré le clo-clo, mais pour une raison simple, c'est qu'il y avait un putain de metteur en scène derrière la caméra. Un mec qui n'est pas dans une posture de fanboy soumis à l'idole qui est mis à l'image. C'est un type qui ne connaissait pas plus Clo-Clo que d'autres.
Oui, c'est un projet qu'il a récupéré.
Mais c'est un projet qu'il a accepté.
Oui, qu'il a accepté.
Parce qu'il s'est dit, à travers la vie de cet homme, je touche, un, à des problématiques qui me concernent personnellement, et deux, à des thématiques qui sont universelles et qui dépassent le cadre de la vie d'un homme et d'un biopic. Je pense qu'à partir du moment où tu te sers d'un destin hors du commun, de quelque chose d'extrêmement populaire pour véhiculer des problématiques universelles, à travers une mise en scène qui les sous-tend et qui est intéressante, alors là, tu peux arriver à faire quelque chose de valable. Le problème du biopic, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, par essence, il y a l'ombre imposante du modèle qui suscite une forme de déférence et d'autocensure qui empêche certains de se dire « je fais mon film avant de faire l'histoire de quelqu'un ou d'un groupe ». Du coup, et là je rebondis sur ce que tu disais au tout début, moi souvent les films musicaux entre guillemets qui m'ont le plus plu sont ceux qui imaginent des faux groupes, donc voilà. Presque célèbres, des œuvres comme ça qui sont totalement libres de traiter leurs icônes comme elles veulent et du coup touchent à des choses fondamentalement plus intéressantes.
J'allais dire la même chose parce qu'en fait voilà, il y a pas de au travers un biopic tu peux pas vraiment parler, enfin le réalisateur peut
pas
vraiment donner de message perso, et en plus voilà, les seules réussites ça va être du faux, donc comme Spinal Tap, des choses comme ça, ou bien juste du docu quoi, comme il y a eu avec Envy qui était assez réussi.
Sur un groupe de métal canadien.
Exact. Mais après, ouais, c'est vrai que en plus, dans tous les biopics musicaux, il y a toujours une scène onirique. Il n'y en a pas dans le NWA d'ailleurs. Il y a toujours
une scène onirique.
Je sais pas, on voit des morts, on voit un symbole. Jim Morrison voit un indien.
Clo-Clo, comment il s'appelle déjà?
Je sais pas, je l'ai pas vu moi.
Le crooner là.
Ah, Frank Sinatra.
Il y en a toujours une.
Tu as toujours la symbolique appuyée. Bon, elle est bien faite, je trouve, dans Clo-Clo. Des fois, c'est bon, les Doors, et par exemple, pourtant j'adore Oliver Stone, mais quand même le contre-exemple de ce qu'il faut faire dans un biopic.
Il y a une scène d'ascenseur qui est sympa.
À la limite, la volonté de traiter de l'hallucination, je veux bien, si tu veux. Oui. Après, bon, ça part en sucette sur certains trucs, mais bon, c'est ce qu'on se dit.
Non, puis les scènes de live aussi, c'est une catastrophe.
Souvent.
Sur NWA, justement, j'ai vu une fois, la première fois, bon voilà, tu le vois, tu trouves ça fonctionne, et tu le revois une deuxième fois, et tu vois qu'en fait, tu vois tous les défauts, tu vois tout ce qui ne va pas. Le live, en général, ça ne passe pas en film. Une des rares scènes live qui fonctionne, c'est Cannibal Corpse dans Ace Ventura.
Oui, c'est vrai.
Ce qui est marrant par rapport à ça, justement, dans NWA, c'est une des premières choses qui est assez étonnante quand tu regardes le film, c'est que dans ta posture de fan, enfin, moi j'ai grandi avec Dr. Dre, que je considère comme un génie, même si c'est un connard probablement humainement dans la vie, on s'en fout de ça, c'est un très grand artiste, et c'est vrai que tu pars, tu te dis, bon, tu sais que tu vas voir NWA, donc tu as envie de voir des choses. Alors, et là où le film est assez malin, c'est qu'il ne te donne pas ce que tu attends, par exemple, je sais pas moi, voir le tournage du clip Straight Outta Compton, regarder certains concerts mythiques. Alors, c'est d'ailleurs pas ce qui l'intéresse. On voit quelques scènes comme ça, on voit beaucoup de musique dans l'enregistrement en studio, donc ça te perturbe un petit peu, mais en même temps, ce qu'il y a de marrant, c'est que du coup, ça reflète cet extrême entre-soi que peint le réalisateur dans des problématiques qui ne sont pas celles que nous avons, puisqu'on a une perspective sur le groupe que le groupe n'a fondamentalement pas sur lui-même. Et du coup, tu te dis, moi, j'ai l'impression qu'ils sont allés chercher un F. Gary Gray qui avait fait des clips vidéo pour les mettre en valeur, et que ce type, inconsciemment, les ayant côtoyés 20 ans, se dit, oui, je vais vous mettre en valeur, mais dans un coin de ma tête, je peux pas, parce qu'il y a des trucs qui sont pas possibles, et je le laisse paraître en filigrane. Donc du coup, je suis... Alors, cette dimension-là, visiblement, ça s'est pas trop vu, vu que le film est un carton cosmique aux États-Unis.
Mais par contre, ça marche pas du tout en France, apparemment.
Ah bon, enfin,
très moyennement.
En tout cas, ils vont faire une suite sur Snoop Dogg. Je suis très très curieux de voir ce qui va se passer. Mais tu vois, cette schizophrénie, tu la sens vraiment pendant tout le film, même dans les scènes musicales.
Et les films de hip-hop, Jimmy, c'est pas toujours une réussite quand même.
Non, il n'y a jamais de réussite.
Attends, dis-moi, c'est quoi?
Il y a quoi? Il y a Notorious B.I.G.
Oh putain.
Il y a Get Rich or Die Trying sur 50 Cent.
Ah, catastrophe. Chef-d'œuvre, celui.
Il y a 8 Mile sur Eminem.
Alors là, je serais moins dur sur Eminem.
Après, le truc, c'est qu'il a bien, il était malin, parce qu'il parle pas d'Eminem ouvertement, il invente un personnage qui est en fait un espèce d'Eminem. Quoi.
Bien sûr.
Mais ouais, et sinon, il y en a un qu'il faut voir, c'est Cop, c'est le film sur Booba, fait par un réalisé à l'arrache.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Fait par un mec qui ressemble pas du tout à Booba. C'est horrible, c'est horrible. Mais ça a été fait par crowdfunding, comme tous
qui se respectent. Tous les films ratés qui se respectent. Ah, ça donne vachement envie. Tous ces biopics que nous avons évoqués, vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur? Non, tout va bien. Tous ces biopics que nous avons évoqués, on les trouve assez facilement en VOD et DVD, pas forcément celui sur Booba, mais bon, ça c'est pas trop grave. S'il fallait en retenir qu'un, vous aurez compris que ma préférence, moi, va Walk Hard, Dewey Cox Story, la parodie signée Jake Kasdan, produite par Judah Pato, avec le merveilleux John C. Reilly. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné-recommandations de nos chroniqueurs, 2 petites minutes chacun pour convaincre. On essaye si possible de rester dans le thème musique et dérivée. Jimmy,
moi c'était j'ai vachement pensé à ça en regardant le film en plus. Ouais. C'est y a une série de BD qui vient de sortir qui s'appelle Hip Hop Family Tree, qui sort depuis 2 ans, je crois, par Ed Piskor, et c'est l'histoire du hip-hop, en fait, année par année, en album de BD. Et c'est vraiment fait comme il fallait le faire, c'est-à-dire c'est vraiment de la BD de super-héros, des comics, et chaque rappeur est traité comme un super-héros, quasiment.
Et les premiers tomes parlent de quoi?
Comment?
Les premiers tomes parlent
du début, Afrika Bambaataa, etc., etc., et Grandmaster Flash, et là, il en est à 83, je crois, avec l'arrivée, LL Cool J, tous ces mecs-là. Et c'est vraiment hyper bien. Après, je sais pas si ça sera traduit en français. Parce que
c'est de la VO pour l'instant.
Pour l'instant, ouais. Parce qu'en plus, ça va être très difficile à traduire. Oui. Et je sais pas s'il y aura un éditeur qui aura envie d'investir là-dedans. Mais ça marche vraiment très bien aux US. Et c'est assez fabuleux en plus, parce qu'il y a vraiment toute la pop culture qui se retrouve dedans. Dans le dernier album, par exemple, on voit Vincent Gallo qui apparaît plusieurs fois dans l'album, parce qu'il était un espèce de sidekick de l'ombre d'un animateur télé qui a fait une des premières émissions de rap. Enfin voilà quoi. Donc c'est vraiment hyper bien à lire. Enfin, c'est vraiment une des BD que, en plus, pareil, c'est un peu comme pour le film. Je m'attendais tellement à rien, et en plus j'aime pas du tout le début du rap. C'est un peu chiant, tous les Sugar Hill Gang et tout ça. Et là, c'est vraiment hyper passionnant. Et puis en plus, il a un style qui est assez ouf.
Hip Hop Family Tree, donc de
Ed Piskor, c'est chez Fantagraphics.
Fantagraphics aux États-Unis, ouais. Yannick.
Ça fait envie en tout cas. Ouais. Alors moi, ça me semblait totalement évident. La reco concernant NWA, c'est CB4. Alors, See Before, c'est une comédie sortie dans les années 90, réalisée par une obscure meuf qui s'appelle Tamara Davis et qui n'a plus fait grand-chose depuis. C'était, j'ai dit, avec Chris Rock dans le rôle principal.
Non, je l'avais pas dit,
avec Chris Rock dans le rôle principal, qui n'est jamais sorti au cinéma en France, donc qui se trouve, je pense, aujourd'hui en DVD, peut-être en Blu-ray.
Il y a un DVD français. Hein,
il y a un DVD, c'est sûr, peut-être en Blu-ray, je ne sais pas, et qui est une parodie littérale de NWA, dans lequel Chris Rock et trois de ses potes qui sont juste des gros bourges de Los Angeles dans des familles cuculapralines au possible et qui se disent que le seul moyen de réussir dans le rap, c'est d'apparaître comme un gros gangster. Donc ils se déguisent exactement comme Easy, Ice Cube et tout ça. C'est de la pantalonnade. Quand je dis c'est de la pantalonnade, c'est vraiment de la grosse comédie, ricain, trashouille, à base de cul, de dope, de tout ce que tu veux. Mais tu te tapes des barres de rire et en plus, c'est en même temps extrêmement fidèle à l'univers d'NWA. Ah ouais, ils ont reproduit avec du délire. Il faut voir leur remake de Straight Out of Compton, le clip qui s'appelle pour le coup Straight Out of Locash. Quand t'écoutes les paroles, t'es mort de rire. Et c'est vraiment, voilà, c'est une petite perle que les gens connaissent pas et que j'aurais intime vraiment de regarder. Ça s'appelle CB4. En français.
Et la réalisatrice
Tamara Davis, mais on s'en
Tamara
fout.
Tamara Davis, mais on s'en fout. Mais il y a Chris Rock, mais tu t'en fous. T'es
aussi.
Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules, à la technique, autant qu'au public pour l'accueil. Prochain au ciné. Dans une semaine, on parlera de The Visit, le grand retour au cinéma du redoutable M. Night Shyamalan. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné. À chaque fois, n'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Mad Max, sur Le Transporteur, sur Mission Impossible, sur Narcos et laissez-nous des petits messages. Ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.
Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.